18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez bien, c'est vous qui le dites, la quotidienne de Radio U sur le 101.1. Alors vous le sentez peut-être à mon intonation, c'est avec le cœur lourd que nous commençons cette émission. Les récents événements du théâtre politique nous ont tous chamboulés et nous allons couvrir cela au mieux, cela dans les prochaines semaines. En attendant, nous nous laissons une petite semaine de quotidienne culturelle et locale comme vous avez eu l'habitude d'écouter jusqu'ici. Au sommaire de cette émission, nous allons parler d'un bateau pour Gaza, mais pas n'importe lequel, nous allons parler du Andala, ancien navire de pêche qui s'est fait connaître, qui fait partie plutôt de la flottille de la Liberté, une coalition internationale qui tente depuis 2010 d'apporter de l'aide humanitaire sur la bande de Gaza. Et pour cela, nous avons invité Claude Léostic de l'association France-Palestine Solidarité, co-organisatrice de l'accueil du Andala, qui va arriver mercredi prochain. Bonjour Claude.
Bonjour.
Alors, avant de parler du bateau pour Gaza, j'aimerais qu'on fasse un rapide résumé, si je puis dire, de la situation à Gaza. Nous avons déjà, on vous avait déjà invité en octobre dernier, quelques jours après le début du conflit. Et puis après, depuis, il s'est passé énormément de choses, on a eu beaucoup d'informations, et peut-être qu'un petit rappel sur la situation nous aidera à y avoir plus clair. Alors, selon certaines informations, selon certaines sources, entre le 7 octobre 2023 et le 31 mai 2024, on arrive au nombre horrifique de 36 284 Palestiniens morts, dont 7 797 enfants, selon les centres médicaux de Gaza, estimation qui serait sous-estimée selon certaines sources, car manque de moyens pour un réel recensement à travers le territoire. De nombreuses structures médico-sociales ont été détruites par les bombardements, même bombardements qui poussent à une exode massive de Gazaouis vers des camps de réfugiés, dont le camp de Rafah, tristement célèbre pour ses conditions de vie et pour le danger qui est permanent. Mais le conflit ne s'arrête pas au territoire de Gaza, des tensions internationales et nationales se font sentir, que ce soit la condamnation de Benjamin Netanyahou et la démission de Benny Gantz du cabinet de guerre du premier ministre israélien. Le conflit impacte les pays voisins comme le Liban. Et pour ce qui est des aides humanitaires, nous avions vu une chute drastique de celles-ci ces derniers mois. Très récemment, la construction du port américain a pu augmenter l'apport des aides, a fini sa construction, mais là encore, ça reste un sujet à débat. Ceci étant dit, est-ce que Claude, tu voudrais ajouter des informations complémentaires ou des précisions sur ce qui vient d'être dit ?
Bon, merci, c'est tout à fait juste de tout ce que tu as dit. Il faut remettre ça dans le contexte de la guerre générale des autorités israéliennes contre la Palestine, parce qu'en Cisjordanie aussi, la situation est critique, elle est absolument terrible, même par endroits. Alors à Gaza, effectivement, bon, il n'y a plus rien, hein, c'est un champ de ruines, et on parle de 140 000 victimes en tout, morts, blessés, amputés, disparus, parce que sous les décombres, il y a apparemment des dizaines de milliers de cadavres qui restent, qui sont écrasés là. Donc il n'y a plus de médicaments qui entrent, il n'y a plus d'eau pratiquement. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, vient de faire un rapport très très alarmant sur la qualité de l'eau. L'eau qui reste n'est pas buvable théoriquement. Il n'y a pas de nourriture ou si peu. Et ce que tu disais sur le port US, là, c'est de la poudre aux yeux, en fait, cette histoire. Israël a bloqué toutes les entrées et sorties donc de la bande de Gaza, notamment à Rafah, dans le sud, ville que tu mentionnais, et qui était le point de passage vers l'Égypte. Et en fait, Israël s'en est emparé le 6 mai, et depuis, plus rien n'entre dans Gaza. Il y a des centaines de camions pleins d'aide humanitaire qui attendent de l'autre côté de la frontière en Égypte et qui sont coincés là, et l'aide pourrit, l'aide n'arrive pas. Et sur le port, enfin la jetée US, un peu d'aide arrive, c'est vrai, mais elle est distribuée aux soldats israéliens qui vont la mettre dans des entrepôts, et il semblerait que très très peu arrive à la population palestinienne de Gaza. En plus, cette jetée, c'est un peu un cheval de Troie, hein, puisque ça laisse entendre que puisqu'ils sont là et que l'aide peut entrer, il n'y a pas de blocus et il n'y a pas de problème. C'est un camouflage d'une réalité absolument terrible qui est la famine est installée dans le nord et maintenant dans le sud. comme tu disais, les enfants meurent, les maladies se répandent, les malades ne sont plus soignés, il n'y a plus d'hôpitaux pratiquement. Les étudiants et les élèves ne vont plus à l'école depuis des mois. Toutes les universités ont été bombardées, la plupart des écoles sont écrasées sous les bombes. Les centres des organisations internationales humanitaires sont bombardés régulièrement aussi. Là, tout récemment, une école de l'UNRWA, l'Office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a été bombardée alors qu'elle servait de refuge à des familles. Il y a encore eu des dizaines de morts, des femmes et des enfants essentiellement. Donc on est dans un cadre de guerre génocidaire, comme les Nations Unies l'ont reconnu par la Cour internationale de justice. Et on est devant le nettoyage ethnique et c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Beaucoup de gens nous disent « oui, mais c'est le 7 octobre qui a tout commencé ». Malheureusement non, le 7 octobre n'est qu'un épisode absolument tragique dans une histoire très longue d'occupation, de violation des droits, de meurtre, de crimes et de vol des terres et de l'eau et des ressources qui a amené à une explosion qui, pour toute personne qui suivait un petit peu la réalité sur le terrain, était inévitable. Alors qu'elle ait pris cette forme-là, c'est, comme je le disais, absolument tragique, c'est terrible, mais il était évident que quelque chose devait se produire. Une population de 2 400 000 personnes sur 380 km² dans des conditions de vie aussi effroyables, ça ne pouvait pas ne pas exploser un jour ou l'autre.
Oui, et puis on a dit beaucoup de choses, mais je pense qu'on peut aussi rappeler que les Palestiniens sont dans l'incapacité de quitter le territoire de Gaza et de Cisjordanie, déjà parce que l'Israël empêche leur obtention de visa et de passeport, et la dernière fois d'ailleurs tu disais qu'ils étaient apatrides, bien ça, et donc ils sont dans cette situation-là où ils sont obligés d'être sur le territoire de Gaza dans ce conflit.
Oui, et non seulement ils sont obligés, mais ils sont déplacés de force. Alors déjà, il faut savoir qu'à peu près 70% de la population de Gaza, ce sont des réfugiés depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Des gens qui étaient dans d'autres zones de Palestine et qui ont été regroupés au bord de la mer, en fait. Et déplacés donc dramatiquement une première fois. Et là, pendant cette guerre-ci, contre eux, ils ont été déplacés d'abord du nord au sud, puis du sud au centre, puis du centre sur la côte, etc. On leur dit, l'armée israélienne leur dit, allez à tel ou tel endroit, on vous est contraint, mais là, vous serez en sûreté. Et puis, deux, trois jours après, les zones en question sont bombardées. Donc, on est devant un crime de guerre majeur parce que, les lois de la guerre, c'est fixé dans le marbre. Hein, et l'une des lois, c'est qu'il est strictement interdit de s'attaquer à une population qui n'a pas d'endroit où se protéger. Qui n'a pas d'endroit où disparaître de la vue des bombes et des radars, etc. Et là, il n'y a aucun endroit où se protéger. Il n'y a aucun endroit qui est sûr à Gaza. Il n'y a aucun endroit où les civils peuvent se protéger.
On a fait un rapide rappel du coup de la situation, mais on va parler du sujet principal. Du coup, un bateau pour Gaza, je l'avais mentionné en tout début. Et je pense que après ce rapide rappel, certains de nos auditeurs et auditrices vont se demander comment on peut aider, comment on peut soutenir les victimes de ce conflit. Et justement, là, on va pouvoir parler du navire, du coup, le Andala, qui arrivera à Brest mercredi prochain et qui fait partie de la flottille de la liberté pour Gaza, avec un message « Cessez le génocide à Gaza ». Et déjà, est-ce que je vais dire une bêtise si le but de la flottille de la liberté et du Andala, c'est de porter un message de paix à travers l'Europe ?
Le Andala, oui. Les autres bateaux de la flottille, non. Les autres bateaux sont en Méditerranée et ils sont porteurs d'aide humanitaire et ils attendent de régler des problèmes administratifs pour pouvoir prendre la mer. Mais le Andala, oui, très clairement. Le Andala, c'est un bateau sous pavillon norvégien qui est affrété donc, par la flottille de la liberté pour Gaza qui existe, comme tu le disais, depuis 2010. Et ce bateau, déjà l'an dernier, a fait un tour des pays d'Europe du Nord pour expliquer la situation à Gaza, pour faire prendre conscience aux populations nord-européennes de ce qui se produisait déjà de terrible. Alors maintenant, évidemment, c'est décuplé, centuplé. Et là, il est parti de Norvège à nouveau le 1er mai. Il est passé par les pays scandinaves et puis l'Europe, la Hollande, la Grande-Bretagne. Il est actuellement en Irlande, à Cork, où il part là. Et il va se diriger vers nous, ou comme tu le disais, il va arriver mercredi vers 15h dans le port de Brest. Il n'est pas porteur d'aide humanitaire, mais il est porteur d'un message extrêmement clair. Arrêt du blocus, déjà, c'était le mot d'ordre général depuis des années. Et puis maintenant, évidemment, arrêt du génocide, arrêt immédiat du génocide, cessez-le-feu immédiat, entrée de l'aide humanitaire tout de suite dans Gaza.
Et comme tu l'as dit, il va arriver à Brest à 15h, au Quai Malbert.
Non.
Ah non, ce ne sera pas au Quai Malbert, finalement.
Oui, il y a une modification. On a eu, on va dire, un problème et une interdiction administrative d'y accoster pour des raisons qui nous sont totalement incompréhensibles. Mais la situation s'est débloquée et nous serons en fait au Quai La Pérouse dans la marina du château. C'est le grand quai là, qui ferme la marina devant l'entrée de la rivière de Lappenfeld.
Très bien. Eh ben, c'est mieux vaut refaire une petite correction pour qu'on ait tout bien les bonnes informations. Et il repartira samedi vers La Rochelle pour terminer son périple normalement en août à Gaza.
Oui.
Sur place, il y aura donc de la musique pour les accueillir et pour le départ. On pourra visiter le navire aussi. Il y aura un rendez-vous à ne pas manquer, j'ai envie de dire, à 20h le jeudi, pour une conférence avec le médecin humanitaire Raphaël Pitti, qui parlera de son expérience à Gaza. Il y est allé deux fois.
Deux fois, oui. Depuis octobre.
Et donc déjà, est-ce que tu voudrais ajouter des précisions sur le programme des deux journées ?
Oui, on peut déjà dire qu'il y aura donc un accueil en fanfare le 12. Et puis, bon, le 12, ils vont se retourner un peu, organiser leur séjour. Il y aura des travaux sûrement à faire sur le bateau. C'est un vieux bateau, hein, effectivement. Hein. Il a été rénové, bien entendu, mais il y a toujours des bricoles à faire dessus. Donc le jeudi, il y aura des visites du bateau pour qui le veut. Et le soir, cette conférence qui aura lieu à la Maison du Peuple. On a cherché des salles au port, mais on n'en a pas trouvé. Donc on ira à la Maison du Peuple à 20h. C'est place Édouard Mazé, c'est en face du lycée de l'Arteloire. Donc c'est en centre-ville. Et ben on peut peut-être parler du docteur Pitti maintenant.
Bien sûr.
Donc c'est quelqu'un d'absolument remarquable. Il fait partie de ces héros modestes qui risquent leur vie pour les autres. Et c'est un médecin spécialiste de la médecine de guerre. Il a été sur beaucoup de terrains de guerre. Il a été en Syrie, il a été en Ukraine il y a quelques années. Et là, il était donc à Gaza. Il témoigne beaucoup depuis qu'il est rentré. Il a fait même des journaux télévisés nationaux, etc. Je crois qu'il est assez connu. J'espère donc que ça va attirer l'attention des Brestois et Brestoises. Et c'est quelqu'un qui est très fort, hein, mentalement, comme ils le sont tous ces gens absolument admirables qui vont sous les bombes essayer de soigner. Mais on le sent quand même très ébranlé par ce qu'il a vu. Il parle de génocide, hein, carrément. Il explique comment les hôpitaux ne peuvent plus faire face à rien du tout, comment ils sont couverts de sang, couverts de membres de personnes écrasées. Enfin, c'est un traumatisme réel, évidemment, pour tous les Gazaouis, mais je pense aussi pour le personnel médical qui, malgré tout, y va. Donc, il va témoigner. Et l'intitulé qu'il a choisi pour la soirée, c'est « Soigner à Gaza, de l'urgence à l'impuissance ». Ça dit clairement où il se situe au bout de ses deux missions. Je pense qu'il y retournera en plus. C'est qu'il explique comment il faut laisser mourir des gens, parce qu'il faut faire des choix. Et ceux qui sont les moins atteints, on va essayer de les sauver. Et ceux qui sont les plus atteints, quelle que soit leur souffrance, on les laisse mourir. Et pour un médecin, pour un soignant, c'est quelque chose d'épouvantable, évidemment. Alors, une petite information, il a été médecin militaire et il a été en poste à Brest. Donc, ça va pour lui être un retour dans une ville qu'il connaît et on est évidemment extrêmement content de l'accueillir. Et il était avec une ONG médicale, donc humanitaire, qui s'appelle PALMED, Solidarité Palestine Médicale, qui opère essentiellement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Et il est allé avec d'autres également. Je crois qu'il a aussi été avec Médecins Sans Frontières. En fait, c'est quelqu'un de particulièrement engagé dans la médecine de guerre humanitaire.
Ben, comme tu le disais, c'est un héros modeste.
Ah oui, tout à fait.
Et comme je le disais, du coup, peut-être que certains de nos auditeurs et auditrices peuvent se demander comment soutenir la flottille de la liberté et le Andala. Et est-ce que tu saurais nous dire quelles seraient les possibilités justement pour ces auditeurs et auditrices qui souhaiteraient soutenir les victimes du conflit ?
Alors, il faut, je crois, faire savoir ce qui se passe. Il y a une véritable désinformation médiatique au niveau des grands médias, on va dire le mainstream, hein, comme on dit en anglais. Et il faut savoir que les journalistes sur le terrain ne peuvent pas accéder à Gaza. Et l'armée israélienne leur interdit l'entrée depuis bientôt 9 mois. Et que toutes les informations qu'ils reçoivent leur sont données par l'armée israélienne. Les journalistes n'ont pas d'autres sources que l'armée officielle. Donc, alors, bien sûr, ils peuvent glaner des informations dans la population, mais par contre, grâce aux nouvelles technologies, les Palestiniens peuvent envoyer des photos, des vidéos, des messages. Donc là, ça permet de compenser un peu la désinformation officielle, on va dire. Et ça, je pense qu'il faut absolument le relayer. Il faut expliquer encore et encore que la Palestine est un pays sous occupation, et depuis plus de 75 ans maintenant, que c'est un pays qui souffre de la colonisation à outrance en Cisjordanie, d'un blocus absolument criminel à Gaza depuis 2007, et puis maintenant, donc, d'une guerre génocidaire. Donc déjà, transmettre cette parole-là, c'est ce que nous demandent les Palestiniens de Gaza notamment, raconter qu'on ne meurt pas sans qu'on sache, parce que malheureusement, ils sont tellement à mourir, et chacun le matin se réveille sans savoir s'il sera vivant le soir, bien entendu. Donc, relayer ça. Également, se joindre à nous pour des actions de conscientisation, d'information. On fait beaucoup d'actions publiques sur Brest. Par exemple, on fait tous les samedis une manifestation à 14h30 sur la place de la Liberté. Et puis après, où on bouge ou on ne bouge pas, c'est selon. Mais depuis la mi-octobre, toutes les semaines, on a manifesté notre solidarité avec Gaza. Et ce serait très bien qu'on soit encore plus nombreux pour faire passer les messages à nos autorités politiques et qu'elles fassent les pressions qui s'imposent pour que cette politique génocidaire arrête. Mmh. Et puis, il y a dans l'immédiat, là, il y a des possibilités d'être bénévole pour l'arrivée du bateau et faire des tours de garde la nuit pour le surveiller, enfin que sais-je. Mmh. Donc là, il est possible, je vais vous donner l'adresse, de nous écrire un mail pour proposer vos services, là, les auditeurs, auditrices. C'est afps29n attaché @yahoo.fr. Donc on est preneur de toutes les bonnes volontés et bon, les rencontres aussi avec l'équipage et les passagers seront enrichissantes. Donc il faut qu'on arrive à faire suffisamment pression en tant que société civile pour faire bouger les lignes ici. Ça a déjà bougé dans les premières semaines de l'attaque israélienne. Le gouvernement Macron était à 1000% en faveur d'Israël. C'est beaucoup moins vrai maintenant. Monsieur Macron a même fini par demander un cessez-le-feu, ce qui a pris une éternité, mais il a fini par le demander. Donc, il se désole des morts. Bon. C'est un peu... C'est presque pitoyable, quelquefois, le vocabulaire utilisé. Mais quand même, il y a une inflexion assez forte de la position française. Et ça, c'est dû aux images. Hein. Ça, c'est clair. Mais aussi à la pression que nous, comme je disais, société civile, nous mettons. Parce que partout en France, comme dans la majorité des pays du monde, il y a des manifestations, il y a l'exigence de la fin de cette guerre génocidaire et de la justice pour les Palestiniens. Nos dirigeants sont quand même obligés d'en tenir compte.
Et je n'ai rien à rajouter à part simplement que la mobilisation ne doit pas s'arrêter.
Absolument.
Eh bien, merci beaucoup, Claude.
Merci à toi. Merci à Radio U et de votre fidélité dans notre relation.
Mais avec plaisir. Et nous, chers auditeurs et auditrices, nous allons continuer en musique avec The Pen and the Sword.
Save the world. I remind them that the pen is greater than the sword. Don't stop trying, we are humans in God's eyes. not giving that right. Come under threat, it must be defended. You think Allah will see what you're doing to his children? Who's been held accountable? Who's in charge, mister? These kids ain't got nothing to do with y'all business. You should be building more schools than our prisons. They bomb us, ain't even make news in y'all city. He could've been a scholar, he dealing with different problems. Missile hit his home and crushed and killed his barber. We should be playing soccer or meeting up by lockers. He wanted to be a doctor, but he don't have those options. I remind him that the pen is greater than the sword. I remind him every time it's greater than the sword. Education we defend is gonna save the world. I'm dreaming coming together to save the world. I remind him that the pen is greater than the sword. Don't stop trying, we are humans in God's eyes. Education has been activated. It's not random, it's intentional, it's calculated. I'd be lying if I said I wasn't aggravated. I ain't smiling cause I ain't happy. Know how many times I pray for peace and peace ain't happy. Still get on my rug and pray for peace, still gotta take actions. People held responsible for their actions. Until then, we gotta stay active. We need change, that change needs to be data driven. Accurate, comprehensive, and since we the victims, we deserve a voice in day-to-day decisions. And we can dig these generations out these grave conditions. I remind them that the pen is greater than the sword. Remind them every time it's greater than the sword. Education we defend is gonna save the world. Dreaming we unite together, save the world. I remind them that the pen is greater than the sword. Don't stop trying, we are humans in God's eyes.
Et c'était The Pen and the Sword de MC Abdul que vous venez d'entendre sur les ondes de Radio U. Et je vais me permettre de rajouter quelques précisions suite à notre interview avec Claude Léostic. Les groupes de musique, on en avait parlé très rapidement, mais pour ajouter une petite couche, il y aura donc 6 ou 7 groupes à peu près qui joueront à partir de 18h vendredi pendant à peu près 4h. Ce sera à côté du bateau, donc sur le port de commerce dans la marina. Et de plus, s'il y a des marins qui souhaitent accompagner le Andala sur son voyage, vous êtes plus que bienvenus. Le Andala se fera un plaisir de vous recevoir. En tout cas, nous, chers auditeurs et auditrices, c'est déjà la fin de C'est vous qui le dites, la quotidienne du 101.1. Je vais faire la conclusion comme d'habitude, mais exceptionnellement, Pierre-Louis a souhaité vous faire une lecture de Matin Brun et nous allons l'écouter d'ici quelques instants. Mais avant cela, je remercie mes invités d'être déplacés jusqu'ici, pour cette quotidienne. Et bien évidemment, je vous remercie, vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain soir, toujours à 18h, toujours sur le 101.1, pour la prochaine émission. Et sur ce, je vous laisse avec Pierre-Louis pour conclure cette émission.
Matin Brun, de Franck Pavlov. Les jambes allongées au soleil, on ne parlait pas vraiment avec Charlie. On échangeait des pensées qui nous couraient dans la tête, sans bien faire attention à ce que l'autre racontait de son côté. Des moments agréables où on laissait filer le temps en sirotant un café. Lorsqu'il m'a dit qu'il avait dû faire piquer son chien, ça m'a surpris, mais sans plus. C'est toujours triste, un kleps qui vieillit mal, mais passé 15 ans, il faut se faire à l'idée qu'un jour ou l'autre, il va mourir. Tu comprends, je pouvais pas le faire passer pour un brun. Bah, un labrador, c'est pas trop sa couleur, mais il avait quoi comme maladie? C'est pas la question. C'était pas un chien brun, c'est tout. Mince alors, comme pour les chats maintenant ? Oui, pareil. Pour les chats, j'étais au courant. Le mois dernier, j'avais dû me débarrasser du mien, un de gouttière qui avait eu la mauvaise idée de naître blanc, taché de noir. C'est vrai que la surpopulation des chats devenait insupportable et que d'après ce que les scientifiques de l'État national disaient, il valait mieux garder les bruns, que des bruns. Tous les tests de sélection prouvaient qu'ils s'adaptaient mieux à notre vie citadine, qu'ils avaient des portées peu nombreuses et qu'ils mangeaient beaucoup moins. Ma foi, un chat c'est un chat, et comme il fallait bien résoudre le problème d'une façon ou d'une autre, va pour le décret qui instaurait la suppression des chats qui n'étaient pas bruns. Les milices de la ville distribuaient gratuitement des boulettes d'arsenic. Mélangées à la pâtée, elles expédiaient les matous en moins de deux. Mon cœur s'était serré, puis on oublie vite. Les chiens, ça m'avait surpris un peu plus. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que c'était plus gros, ou que c'est le compagnon de l'homme, comme on dit. En tout cas, Charlie venait d'en parler aussi naturellement que je l'avais fait pour mon chat. Et il avait sans doute raison. Trop de sensiblerie ne mène pas à grand-chose, et pour les chiens, c'est sans doute vrai que les brins sont plus résistants. On n'avait plus grand-chose à se dire. On s'était quitté, mais avec une drôle d'impression. Comme si on ne s'était pas tout dit, pas trop à l'aise. Quelque temps après, c'est moi qui avais appris à Charlie que le « quotidien » de la ville ne paraîtrait plus. Il en était resté sur le cul. Le journal qu'il ouvrait tous les matins en prenant son café crème. Ils ont coulé ? Des grèves ? Une faillite ? Non, non, c'est à la suite de l'affaire des chiens. Des brins ? Oui, toujours. Pas un jour sans s'attaquer à cette mesure nationale. Ils allaient jusqu'à remettre en cause les résultats des scientifiques. Les lecteurs ne savaient plus ce qu'il fallait penser. Certains même commençaient à cacher leurs clébards. À trop jouer avec le feu. Comme tu dis, le journal a fini par se faire interdire. Mince alors, et pour le tiercé ? Bah mon vieux, faudra chercher tes tuyaux dans les nouvelles brunes. Il n'y a plus que celui-là. Il paraît que côté course et sport, il tient la route. Puis, les autres avaient passé les bornes. Il fallait bien qu'il reste un canard dans la ville. On ne pouvait pas se passer d'informations tout de même. J'avais repris ce jour-là un café avec Charlie, mais ça me tracassait de devenir un lecteur des nouvelles brunes. Pourtant, autour de moi, les clients du bistrot continuaient leur vie comme avant. J'avais sûrement tort de m'inquiéter. Après, ça avait été autour des livres de la bibliothèque, une histoire pas très claire encore. Les maisons d'édition qui faisaient partie du même groupe financier que le quotidien de la ville étaient poursuivies en justice et leurs livres interdits de séjour sur les rayons des bibliothèques. Il est vrai que si on lisait bien ce que ces maisons d'édition continuaient de publier, on relevait le mot « chien » ou « chat » au moins une fois par volume. Et sûrement pas toujours assorti du mot « brin ». Elle devait bien le savoir tout de même. « Faut pas pousser », disait Charlie. « Tu comprends, la nation n'a rien à y gagner à accepter qu'on détourne la loi, et à jouer au chat et à la souris. » « Brune », avait-il rajouté, en regardant autour de lui. « Souris brune », au cas où on aurait surpris notre conversation. Par mesure de précaution, on avait pris l'habitude de rajouter brun ou brune à la fin des phrases ou après les mots. Au début, demander un pastis brun, ça nous avait fait tout drôle. Puis après tout, le langage s'est fait pour évoluer, et ce n'était pas plus étrange de donner dans le brun que de rajouter putain con à tout bout de champ comme on le fait par chez nous. Au moins, on était bien vu et on était tranquille. On avait même fini par toucher le tiercé. Oh, pas un gros, mais tout de même, notre premier tiercé brun. Ça nous avait aidé à accepter les tracas des nouvelles réglementations. Un jour, avec Charlie, je m'en souviens bien, je lui avais dit de passer à la maison pour regarder la finale de la Coupe des Coupes. On a attrapé un sacré fou rire. Voilà pas qu'il débarque avec un nouveau chien. Magnifique brun de la queue au museau, avec des yeux marrons. Tu vois, finalement, il est plus affectueux que l'autre, il m'obéit au doigt et à l'œil. Fallait pas que j'en fasse un drame du labrador noir. À peine il avait dit cette phrase que son chien s'était précipité sous le canapé en jappant comme un dingue. Et gueule que je te gueule, et que même brun, je n'obéis ni à mon maître, ni à personne. Et Charlie avait soudain compris. Non, toi aussi ? Bah oui, tu vas voir. Et là, mon nouveau chat avait jailli comme une flèche pour grimper au rideau et se réfugier sur l'armoire. Un matou au regard et au poil brun. Qu'est-ce qu'on avait ri ? Tu parles d'une coïncidence. « Tu comprends, je lui avais dit. J'ai toujours eu des chats, alors il n'est pas beau celui-ci ?»« Magnifique !» il m'avait répondu. Puis on avait allumé la télé, pendant que nos animaux bruns se guettaient du coin de l'œil. Je ne sais plus qui avait gagné, mais je sais qu'on avait passé un sacré bon moment et qu'on se sentait en sécurité. Comme si de faire tout simplement ce qui allait dans le bon sens de la cité nous rassurait et nous simplifiait la vie. La sécurité brune, ça pouvait avoir du bon. Bien sûr, je pensais au petit garçon que j'avais croisé sur le trottoir d'en face et qui pleurait son caniche blanc mort à ses pieds. Mais après tout, s'il écoutait bien ce qu'on lui disait, les chiens n'étaient pas interdits. Il n'avait qu'à en chercher un brin. Même des petits, on en trouvait. Et comme nous, il se sentirait en règle et oublierait vite l'ancien. Et puis hier, incroyable. Moi qui me croyais en paix, j'ai failli me faire piéger par les miliciens de la ville, ceux habillés de brun, qui ne font pas de cadeaux. Ils ne m'ont pas reconnu parce qu'ils sont nouveaux dans le quartier et qu'ils ne connaissent pas encore tout le monde. J'allais chez Charlie. Le dimanche, c'est chez Charlie qu'on joue à la belote. J'avais un pack de bière à la main, c'était tout. On devait taper le carton 2-3 heures tout en grignotant. Et là, surprise totale. La porte de son appart avait volé en éclats, et 2 miliciens plantés sur le palier faisaient circuler les curieux. J'ai fait semblant d'aller dans les étages du dessus, et je suis redescendu par l'ascenseur. En bas, les gens parlaient à mi-voix. « Pourtant, son chien est un vrai brin. On l'a bien vu, nous. » « Oui, mais à ce qu'ils disent, c'est que avant, il en avait un noir, pas un brun, un noir. Avant ? Oui, avant. Le délit maintenant, c'est aussi d'en avoir eu un qui n'aurait pas été brun. Et ça, c'est pas difficile à savoir, il suffit de demander aux voisins. » J'ai pressé le pas. Une coulée de sueur trempait ma chemise. Si en avoir eu un avant était un délit, j'étais bon pour la milice. Tout le monde, dans mon immeuble, savait qu'avant, j'avais eu un chat noir et blanc. Avant. Ça alors, je n'y aurais jamais pensé. Ce matin, Radio Brune a confirmé la nouvelle. Charlie fait sûrement partie des 500 personnes qui ont été arrêtées. Ce n'est pas parce qu'on aurait acheté récemment un animal brun qu'on aurait changé de mentalité, ils ont dit. Avoir eu un chien ou un chat non conforme, à quelque époque que ce soit, est un délit. Le speaker a même ajouté « injure à l'État national ». Et j'ai bien noté la suite. Même si on n'a pas eu personnellement un chien ou un chat non conforme, mais que quelqu'un de sa famille, un père, un frère, une cousine par exemple, en a possédé un, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, on risque soi-même de graves ennuis. Je ne sais pas où ils ont amené Charlie. Là, ils exagèrent. C'est de la folie. Et moi qui me croyais tranquille pour un bout de temps avec mon chat brun. Bien sûr, s'ils cherchent avant, ils n'ont pas fini d'en arrêter des proprios de chats et de chiens. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'aurais dû me méfier des brins dès qu'ils nous ont imposé leur première loi sur les animaux. Après tout, il était à moi mon chat, comme son chien pour Charlie. On aurait dû dire non, résister davantage, mais comment ? Ça va si vite, il y a le boulot, les soucis de tous les jours. Les autres aussi baissent les bras pour être un peu tranquilles, non ? On frappe à ma porte. Si tôt, le matin, ça n'arrive jamais. J'ai peur. Le jour n'est pas levé. Il fait encore brun au dehors. Mais arrêtez de taper si fort. J'arrive.